Léa Salamé, vos invités ce matin sont une réalisatrice et deux actrices.
Bonjour à vous Mounia Medour, bonjour Lina Koudry et bonjour à vous Chirine Boutella. Bonjour. Vous êtes mesdames vibrantes, lumineuses, impétueuses et surtout résistantes dans Papicha, le film que vous avez réalisé Mounia, qui raconte la vie d'une bande de jeunes filles dans la décennie noire, les années 90 en Algérie. On rappelle des dizaines de milliers de morts et de disparus. Comment ces jeunes filles vont tenter de continuer à vivre, à étudier, à danser, à fumer et surtout à organiser un défilé de mode malgré la menace islamiste. D'abord, Papicha, ça veut dire quoi ?
D'abord, ça veut dire des jeunes filles coquettes, moi je dis en ce moment des petites meufs.
Des petites meufs, ouais. C'est ça Papicha. Et alors ce sont vos souvenirs à vous, Mounia Medour, vous aviez 20 ans dans les années 90, vous avez senti cela, comment la menace islamiste était chaque jour un peu plus forte. Ça commence avec des affiches collées qui font l'apologie du hijab, ensuite c'est des insultes dans le bus parce que vous n'êtes pas voilée, puis des profs qui sont menacés à la fac parce qu'ils font cours en français et pas en arabe. Vous avez voulu montrer cela, comment la contagion des esprits s'est faite progressivement?
Oui, tout à fait. Moi j'ai effectivement vécu dans l'Algérie des années 90. J'étais étudiante donc dans une cité universitaire un peu similaire à celle qui était décrite dans le film. Et à cette époque, il y avait effectivement une montée graduelle de cette violence de l'extérieur de cette cité, puis à l'intérieur de cette cité, avec cette montée effectivement d'oppression envers les femmes, envers le corps des femmes, cette envie de couvrir, de les interdire de l'espace public. Et c'est ce que montre ce film, c'est-à-dire l'émancipation des femmes à travers le corps, l'émancipation des femmes dans l'espace public et l'organisation donc de ce défilé de mode qui est une sorte de résistance à cette époque.
Oui, c'est ça que vous avez voulu montrer dans ce défilé de mode, la mode comme moyen de résister.
Oui, comme moyen de résister, symboliquement en opposition au voile noir qui recouvre le corps des femmes. Là, c'est des voiles blancs, c'est un tissu blanc pour ce défilé, un tissu blanc pur qui, sans vouloir forcément dévoilé, mais en tout cas qui libère. Oui, c'est ce qu'on a voulu montrer, oui.
Ouais. Surtout un défilé qui permet aussi de fédérer un peu, enfin, de nous unir tout ensemble pour justement, enfin, c'est une façon de se battre entre nous, de se tenir la main et de se porter vers le haut.
Ouais, c'est très important l'amitié entre femmes.
Mmh. Exact.
On le voit là, entre les femmes qui ont les cheveux dévoilés, entre celles qui sont voilées, elles sont. Il y a une scène qui moi m'a beaucoup plu, c'est avec une de vos amies à la cité universitaire. Elle est voilée et elle vous dit vous avez de la chance, vous pouvez sortir, vous pouvez vous amuser. Moi, je vais être obligée d'être mariée et c'est fini pour moi. Les études, je vais être parquée à la maison.
Exactement. Mmh. C'était le destin de certaines filles, oui.
Ouais. C'est les deux visions des femmes.
Complètement.
Complètement. Mais qui cohabitent.
Qui cohabitent et qui, voilà, qui s'entendent quand même très bien, malgré ce qu'on aurait pu imaginer comme différence quand on les voit physiquement. Mais au final, elles sont hyper complémentaires, elles sont toutes très différentes, mais elles représentent toutes la femme.
Et puis elles ont le même combat.
Oui, tout à fait. Et puis c'est quoi le même combat?
C'est d'être libre. Finalement.
Même celle qui est voilée.
Même celle qui est voilée.
Et celle qui est voilée est l'élément fédérateur de toutes ces jeunes filles, puisqu'à un moment donné, lorsque Nejma abandonne, on a Samira, donc cette femme voilée, qui revient à la charge en disant « ta force, c'est ta force ». Il faut continuer à faire ce que tu fais. C'est elle qui va unir toutes ces filles pour continuer ce combat.
Voilà, c'est elle qui va leur dire il faut aller jusqu'au bout, aller au bout de vos rêves. Moi, je peux pas le faire parce que je peux pas le faire. On verra dans le film. On verra dans le film.
On
verra dans
le film.
On dévoile pas tout. Mais en tout cas, c'est elle qui va leur donner la force de résister à sa place. Et puis ensuite, elle résistera elle-même. Mounia, votre père, qui est réalisateur, figurait sur la liste de ceux qui devaient disparaître dans ces années-là. Comment on vit quand on est directement menacé, quand son père est directement une cible menacée de mort?
Alors, on était nombreux dans cette situation. Il faut savoir qu'au départ, la cible était effectivement les intellectuels, les journalistes, les réalisateurs, les étrangers, les femmes de façon générale. On vit dans la peur, bien évidemment, surtout lorsqu'on a 18 ans. Et c'est vrai que le départ était la seule solution. C'est la seule solution qui nous a permis de continuer à vivre et aujourd'hui à faire du cinéma.
Le départ, puisque vous êtes parti en France.
Oui, le déracinement aussi, puisque lorsqu'on a 18 ans, on n'a pas envie de quitter sa famille, ses amis, son entourage, son quotidien, partir vers l'inconnu. Donc il y avait énormément de travail à faire en arrivant ici, comme la plupart des gens, puisqu'il y a eu une vague d'intellectuels qui se sont installés, notamment dans une terre d'asile, on va dire, qui était la Seine-Saint-Denis, Pantin en particulier. Et c'est vrai que nous avons été recueillis de cette façon-là, avec bienveillance.
Lina Koudry, vous êtes plus jeune, vous êtes née dans ces années 90, vous êtes née en 1992, votre père était journaliste, votre père aussi a été menacé, et vous aussi, vous avez dû partir. Quel souvenir vous gardez de ça?
J'étais très jeune bébé, j'avais 2 ans, donc j'en ai pas de souvenirs concrets, mais on m'a raconté beaucoup.
Qu'est-ce qu'on vous a raconté? Qu'est-ce que vos parents vous ont transmis?
ça.
Moi, on m'a dit la vérité. Moi, mon père, il m'a dit qu'il devait se déguiser pour sortir dans la rue parce que c'était un homme public qui passait à la télévision tous les soirs et que du coup, il était forcément reconnaissable. On m'a dit que fallait pas passer de coup de fil, fallait pas. Enfin, c'était très compliqué et que, au bout d'un moment, quand on perd tous ses proches, ses amis, ses collègues, il s'agit de partir. Et même si on a envie de résister, en 94, moi, ils ont décidé de partir. Ouais, c'est la vérité qu'on m'a racontée. Alors leur vérité.
Contrairement à la jeune fille que vous jouez dans le film, qui elle, son petit ami va lui dire viens, on part en France, ouais. on va faire notre vie là-bas, et elle dit non, c'est mon pays, c'est ici, je reste ici et je résiste ici.
Ouais, c'est un destin complètement autre que celui de mes parents et que je comprends et qui m'a attiré beaucoup pour ce rôle.
Vous, Chirine, vous êtes restée là-bas, vous avez fait votre scolarité jusqu'à post-bac. Comment on se construit, vous êtes aussi très jeune, comment on se construit dans la décennie post-année noire quand on est une femme en Algérie?
Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on a vécu dans une cité militaire pas loin d'une base aérienne militaire, donc on était vachement protégés. Et en fait, je l'ai su beaucoup, enfin très très tard, à travers mes amis au lycée qui m'ont raconté. Et puis je suis allée voir mon père en disant mais c'est quoi ça? Il m'a dit bah écoute ma fille, on vous a juste protégé, c'est pas nécessaire de vous en parler. Donc en réalité, j'ai eu une jeunesse normale. Ah, c'est par la suite où j'ai appris aussi des histoires. Moi, c'était mes grands-parents. Mon grand-père qui était écrivain et ma grand-mère étrangère, autrichienne, qui était effectivement menacée, mais eux aussi ont résisté à leur façon. Et ma grand-mère, il était absolument hors de question de partir. Elle est autrichienne, elle n'est pas musulmane et pourtant elle mettait le voile le matin pour aller faire ses courses, pour ne pas être embêtée. Elle essayait de parler en arabe, de baragouiner en arabe. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est encore là-bas et c'est son pays, quoi. Elle refuse de partir.
Vous êtes youtubeuse aujourd'hui, vous êtes suivie par plus de 500 000 personnes, c'est ça, j'ai vu sur votre compte YouTube.
1,9 million.
Oh, c'est sur Instagram.
Pardon, excusez-moi, je mélange entre YouTube
sur Instagram.
Voilà. Excusez-moi, 2 millions, allez, on fait des millions. Vous dites que vous ressentez une espèce de responsabilité à représenter l'image de l'Algérie sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Ils vous disent, on est fiers de toi? Oui, ils vous disent, c'est quoi cette image que tu montres?
C'est ça qui est assez particulier en Algérie, c'est qu'on est toujours représentatif d'eux, en fait. On les représente où qu'on aille. On a toujours, ils comptent sur nous, ils nous suivent, ils nous soutiennent. Et effectivement, c'est ce qui se passe aujourd'hui parce qu'on partage, enfin, je partage beaucoup avec eux ce qui se passe. On a beaucoup de chance avec Papicha. Et effectivement, beaucoup de messages d'amour, de soutien, de fierté. Surtout les femmes, beaucoup de femmes qui nous disent on est fiers, vous représentez la femme algérienne aux yeux du monde en fait, et dans le cinéma c'est vraiment incroyable.
Ce film, Mounia, vous avez mis 6 ans à le faire et vous finissez le montage au moment où la révolution éclate, la révolution du sourire éclate en février dernier. Vous êtes à Cannes, vous portez des badges à Cannes où vous dites, enfin le fameux badge qu'ils s'en aillent tous au moment où Bouteflika annonce sa candidature. C'était aussi pour vous... C'est très important aussi pour vous, il y a les années noires, mais il y a aussi ce qui se joue aujourd'hui en Algérie.
Tout à fait, la projection du film était prévue un vendredi. Pour nous, c'était une façon de soutenir tous ceux qui étaient dans la rue, depuis des semaines, qui étaient dans la rue pour une vraie revendication, et puis toutes ces femmes, puisqu'il faut comprendre que cette révolution est beaucoup menée aussi par les femmes qui sont dans la rue, qui sont encore une fois la reconquête
aujourd'hui,
de l'espace
qui sont
public.
Tous les vendredis encore, les tout manifestations continuent en Algérie. Le film a été interdit, il devait sortir en septembre en Algérie, il a été interdit, est-ce que vous avez compris pourquoi?
Non, malheureusement, on n'a toujours pas compris pourquoi. On a reçu un mail non officiel de notre distributeur algérien qui lui aussi est resté un peu dans l'incompréhension en nous disant qu'il n'était pas nécessaire de se déplacer et qu'on annulait la sortie et les avant-premières qui étaient prévues.
Et donc vous n'avez pas de date?
Pas de date.
Pas de date du tout et même pas d'interlocuteur en fait pour avoir des réponses parce qu'évidemment on est très frustrés, on est très déçus de pouvoir approcher aux Algériens, parce que c'est pour eux ce film.
Alors le film avait été retenu par l'Algérie pour représenter l'Algérie aux Oscars, mais la règle pour les Oscars, ça impose que les films sélectionnés doivent être projetés 7 jours de suite avant le 30 septembre dans leur pays d'origine, ce qui n'est donc pas le cas parce que vous avez été interdit. Du coup c'est mort les Oscars pour vous?
Alors on a fait ce qu'on appelle une dérogation. C'est la première
ça,
fois.
Ça, c'est l'information que vous me donnez.
Voilà, ça, c'est une exclusivité. Alors, on a fait un énorme dossier. Donc, on a fait une dérogation auprès du comité des Oscars américains. Nous avons été rencontrer ces gens-là. Nous avons téléphoné. Nous avons envoyé des courriers. Et elle a été acceptée. Donc, nous sommes officiellement
sur la liste des Oscars.
Tout à fait.
Pour représenter l'Algérie.
Tout à fait.
L'Algérie, ouais.
Donc, vous avez une dérogation exceptionnelle. On vous l'espère. Allez, que ce film aille loin. Papicha, film solaire, résistant sur la pulsion de vie de la jeunesse algérienne, à voir sur vos écrans partout en France et je l'espère un jour en Algérie. Merci à vous, mesdames.
Merci.
Belle journée.
Merci
à vous aussi. Merci.